Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
En RDC, beaucoup d'élèves ne terminent pas l'année scolaire faute de moyens pour payer les frais de motivation des enseignants, donc les frais de motivation qui posent souvent des problèmes hein, pour certains parents. Ils n'arrivent pas à réunir ces frais et comme conséquence, cette situation pose un sérieux problème pour la scolarité de certains enfants. Et comment mettre donc fin à ces phénomènes de prise en charge des enseignants par les parents d'élèves? Nous disons déjà merci à toutes les personnes qui ont réagi sur la page Facebook au Capi Service. On a reçu beaucoup de réactions. On verra comment. On pourra les lire au fur et à mesure. Bon, pour l'instant, on va d'abord circonscrire le sujet avec notre invité sur que faire pour mettre fin à la prise en charge des enseignants par les parents d'élèves en RDC. Alors, Eugène Ngimbi, vous êtes chargé de communication, l'ONG Dynamique pour l'action humanitaire et défense des droits des hommes, des frais de motivation. C'est un problème et qui revient, dont on parle toujours. Est-ce que c'est possible de mettre fin à cette prise en charge des enseignants par les parents d'élèves?
Je suis tenté de dire, comme Obama lors de sa campagne, Yes We Can. Oui, nous pouvons. Je crois que le peuple n'a que les institutions qu'il mérite. La motivation, le frais supplétif. Et tout ce que nous voulons, c'est la volonté du peuple congolais qui accepte. Qui accepte que l'État soit démissionnaire par rapport à ses engagements. Et lui vient supplier, n'est-ce pas, aux engagements de l'État. La gratuité de l'enseignement public primaire est obligatoire. C'est constitutionnel. Mais je ne sais pas s'il y a une école à Kinshasa. J'ai entendu le ministre ce matin, je crois, à l'issue de l'évaluation du plan interministériel d'éducation, dire que à Lubumbashi et à Kinshasa, il y a la gratuité de l'enseignement primaire. Oh, bon Dieu, bon sang! On prend le peuple pour de canards. C'est pas vrai. Il faut mettre un terme à ces phénomènes de la motivation. C'est-à-dire, il faut contraindre l'État à prendre ses responsabilités régaliennes. Comment? Ben, nous avons l'opportunité, les élections qui arrivent. Nous évaluons, ce système est à la base de la dégénérescence de notre enseignement. Il faut contraindre le pouvoir public, nos députés qui sont à l'Assemblée nationale, nos sénateurs. J'apprends que les institutions comme la présidence de la République, comme le Sénat, comme le gouvernement, sont en dépassement sur les budgets qui leur sont alloués. Et vous payez à un enseignant 88 ou 90 000 francs congolais. Vous voulez avoir quel type d'enseignement? Il faut y mettre un terme en contraignant, n'est-ce pas, à ceux qui sont des délégués du peuple, de voter des lois qui soient à mesure de profiter au peuple. Si dans une année nous avons les élections législatives, nous sanctionnons les députés qui n'ont pas regardé le système éducatif congolais, en choisissant ceux qui sont capables de le faire, ceux qui sont capables de voter des lois en faveur de la population, je crois que nous pourrions mettre un terme à ces phénomènes tout à fait sauvages. C'est pas croyable que l'État laisse à la population le soin de prendre l'enseignement en charge. Vous avez l'accord d'Addis Abeba, dont on parle tant. À une de ses recommandations, il est dit, il faut fournir les services sociaux de base. C'est un vademécum l'accord d'Addis Abeba. Il n'y a pas que le dialogue. Les infrastructures de base, c'est la santé, c'est l'éducation. Dès lors que nous mettons au cadet de nos soucis le service de l'éducation de nos enfants, dans 10, 15, 20 ans, nous en payerons le prix. Et donc, dès maintenant, week-end, nous pouvons mettre en terme question que la population se prenne en charge. Au lieu de prendre les enseignants en charge, il faut nous prendre en charge en décidant qui nous représente dans les institutions de ces pays, qui prend les bonnes décisions, qui accepte qu'on puisse passer de 12-14% alloués au budget de l'État pour arriver à 30-40%.
Alors, s'il faut parler de pistes, de solutions par rapport à ce phénomène, et vous évoquez d'abord quoi? Qu'au niveau de... Il faut d'abord revoir peut-être le budget pour ce qui est de l'enseignement. Quelles sont les pistes de solutions que vous proposez?
La piste est celle-là.
Oui.
Nous avons la possibilité de désigner, de choisir ceux qui nous représentent dans les assemblées provinciales, dans les assemblées nationales, au Sénat. Ce sont ceux-là qui ont la décision. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des dépassements en termes de budget alloué aux institutions, qui vont à 200, 400% de budget leur alloué, alors que le budget qu'on alloue à l'enseignement reste le plus modique à travers le monde. C'est un scandale. Parce que si nous mettons nos enfants au dernier de nos soucis, nous récolterons dans 10, 20 ans, non pas un pays émergent, nous aurons les Boko Haram, nous aurons des Kuluna, nous aurons des enfants qui n'auront pas eu de la matière grise dans leur tête et qui n'auront que les armes. Je salue en passant le procès qui s'ouvre aujourd'hui de Bosco Ntaganda, cet homme qui a instrumentalisé les enfants, qui en a fait des enfants soldats, des esclaves sexuels. Et la sanction, c'est cela la sanction au niveau international. Mais au niveau interne, nous avons une arme. C'est les voix que nous avons lors des échéances à venir. Il faut sanctionner les décideurs pour qu'on ait de vrais, ceux qui regardent, ceux qui sont conscients que l'enfant a des droits. L'avenir de ce pays, la jeunesse, oui, mais c'est d'abord l'enfant. C'est pour ça que nous, au niveau de l'ONG, nous nous battons pour vulgariser, n'est-ce pas, la loi de 2009,
oui,
portant protection de l'enfant, pour sensibiliser et les enfants, et les parents, et les décideurs, pour qu'on reconnaisse que les enfants constituent la matrice, n'est-ce pas, de ce pays, et qu'il faut, regarder par deux fois le budget qu'on alloue à l'éducation nationale. Évitons de faire du cosmétique, évitons de raconter de bilans positifs. Lorsqu'il y a des tests, des examens d'État, on donne l'impression que l'enseignement est organisé dans ces pays. Il n'existe pas, l'enseignement.
Donc, vous avez dit qu'en première piste de solution, il faudra revoir la hausse du budget en ce qui concerne l'enseignement. Et une autre piste, parce que là, maintenant, il faut vraiment donner des solutions, parce que ça fait déjà un bon moment qu'on n'arrête pas de parler de ce frais, de prise en charge des enseignants par les parents, et bien souvent, et surtout lorsque il y a des élèves qui sont chassés, et par rapport au retard enregistré pour la paye de ce frein, vous avez parlé de revoir à la hausse le budget alloué à l'enseignement et une autre piste de solution.
La piste n'existe que dans la tête des Congolais. Pas plus tard que ce soir ou hier soir, je suivais le gouverneur de province de la ville, province de Kinshasa, qui disait, qui demandait au directeur des écoles, qui demandait au chef d'établissement de ne pas chasser les enfants pour le frais de Minerval pour le mois d'août, qui est déjà à son terme, et le mois de septembre. Oh, bon sang! Qu'est-ce que cette histoire-là de ne pas chasser les enfants? Il faut que la population se prenne en charge. Le jour où le peuple congolais, comme un seul homme, se décide de ne plus prendre en charge ce frais, eh bien, il y aura un changement. C'est à nous! C'est à nous de nous décider et de nous déterminer à ce que ce qui n'est pas dans la logique, ce qui n'est pas dans le droit, ne puisse pas continuer. Il faut arrêter la spirale. C'est aux parents de dire, nous ne payons plus les enseignants. Le Minerval, il est fixé à 100 francs congolais, bon sang. Mais en réalité, quelle est l'école où on paye 100 francs pour un enfant dans cette république? Il faut que les gens se prennent en charge. Il faut qu'il y ait des ONG comme les nôtres. Il faut qu'il y ait des syndicats qui mobilisent, qui sensibilisent les parents pour y mettre un terme. Et les églises qui sont devenues, excusez-moi, complices justement de ce jeu de tralala du pouvoir public. Parce que c'est là aussi, dans les écoles chrétiennes, islamiques, protestantes, que les frais de motivation sont les plus excessifs. Et bon sang, qui va prendre la direction, qui va prendre la tête pour qu'il y ait un changement dans ce pays?
Voilà, Monsieur Jeanne Ngimbi, c'est une émission interactive hein, où il y a des auditeurs qui appellent pour poser des questions. Nous rappelons qu'on est en train de parler de que faire pour mettre fin à la prise en charge des enseignants par les parents d'élèves. Et donc en RDC, si vous êtes intéressé par ce sujet, nous rappelons le numéro du contact, c'est le 081-890-6394. Nous en profitons déjà aussi pour lire une réaction qui nous est parvenue sur la page Facebook Okapi Service. C'est Ladis Maloulou qui nous écrit ceci. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de crier. Je comprends pas, mais la question est la suivante. Qu'est-ce qui a amené les difficultés sur le plan éducatif en République démocratique du Congo? J'aimerais savoir qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé aujourd'hui à parler de frais, de motivation pour les enseignants. C'est ça sa question.
C'est le manque de volonté politique. Les gouvernements, profitant du laxisme, de l'aveuglement, permettez-moi le terme, de la population, démissionnent de ses fonctions régaliennes et laissent la population, n'est-ce pas, prendre en charge ce qui revient de droit à l'État congolais. C'est cette démission à laquelle nous devenons complices en acceptant de prendre le rôle du pouvoir public. Il faut y mettre un terme. Il n'y a pas de volonté politique, mais la volonté politique, ça vient de la base. Il faut la pousser, il faut contraindre ceux qui ont l'impérium pour qu'ils aillent dans le sens des désiderata de la population. C'est cela la prise en charge. Non pas des enseignants, des professeurs, c'est la prise en charge de soi-même. Pour parler comme M. Laurent disait, Kabila disait, il faut se prendre en charge. Il faut contraindre les décideurs à réaliser ce que le devoir leur donne de faire, ce que la Constitution leur enjoint de faire. Le droit à l'éducation, c'est constitutionnel. Pourquoi on viole la Constitution à ce niveau-là? L'enseignement public est obligatoire et gratuit. Pourquoi est-ce qu'on ne le met pas en pratique? Et en chaque début d'année, le ministre va dans un... Normalement, ils ont été à Zongo. Il va dans un coin,
oui,
avec des partenaires. Et il proclame, oui, Lubumbashi Kinshasa. Non, la Constitution n'a pas dit Lubumbashi Kinshasa. La Constitution dit, l'enseignement public est obligatoire et gratuit, monsieur le ministre. Excusez-moi. C'est constitutionnel. Vous violez la Constitution. L'enseignement fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine, du Congolais et de l'enfant congolais. Parce que demain, nous aurons le fruit de ce que nous aurons semé. Nous allons récolter ce que nous aurons semé parce que nous n'aurons pas éduqué nos enfants.
Voilà, Jean Guimond, on va poursuivre avec vous le temps pour nous d'accueillir des auditeurs qui sont déjà en ligne. Dorcas nous appelle de Lubumbashi, Kitoko et à Kinshasa. Kindula est également à Kinshasa. Dorcas, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Dorcas.
Bonjour Marcel, bonjour à Monsieur Jeanne et bonjour à tous les auditeurs inconditionnels de la fréquence de la paix.
On vous écoute Dorcas, quelle est votre question?
Bon, je n'ai pas vraiment de questions, mais c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable parce qu'on nous dit qu'il y a la gratuité de l'école primaire, donc dans les institutions publiques. Et cette gratuité, c'est juste au niveau de la première primaire. Imaginez juste au niveau de la première primaire et cet enfant-là qui étudie gratuitement la première primaire et la deuxième, la troisième, la quatrième primaire, vu que les parents n'ont pas suffisamment de moyens, c'est l'un des causes de la déperdition scolaire. Dans un grand pays comme le nôtre, où on nous dit donc de la gratuité de l'école primaire, c'est une gratuité purement politique. Ce que je peux dire, donc nous ne voulons pas de cette gratuité politique, mais nous voulons de cette gratuité effective. Si on nous dit qu'il y a gratuité de l'école primaire, eh bien, nous voyons la gratuité de l'école primaire, c'est juste le cycle a commencé de la première primaire jusqu'en sixième. Mais aujourd'hui, on nous parle de la gratuité primaire, alors que cette gratuité, c'est juste au niveau de la première primaire. En tout cas, vraiment, c'est déplorable et c'est la cause même de la déperdition scolaire.
Voilà, merci Dorcas d'avoir appelé de Lubumbashi à Kinshasa. On retrouve Kitoko. Bonjour Kitoko.
Oui, bonjour Monsieur Marcel. Bonjour également à notre invité. Et j'en profite de cette occasion pour saluer aussi tous les auditeurs qui sont présents à ma branchée sur Okapi.
On vous écoute, Kitoko.
Oui, ma préoccupation est la suivante. Dans notre pays, il y a un sérieux problème qui se pose par rapport à l'éducation. Dans la structure éducationnelle, les enseignants sont négligés, M. Marcel. Ils sont minimisés, c'est comme s'ils n'ont pas d'importance, alors qu'ils cumulent une grande importance sur l'éducation de la jeunesse en particulier. Mais on ne sait pas, c'est pitoyable, monsieur le journaliste. Oui, excusez-moi de dire ça. Les enseignants ne sont pas pris en charge. Et pourquoi ce problème-là? Pourquoi? Jusque-là, nous ne savons pas, surtout le problème de mécanisation par exemple. Jusqu'à aujourd'hui, il y a plus d'un million d'enseignants qui ne sont pas mécanisés, qui se contentent simplement d'une petite prime qui ne leur suffit pas pour s'assumer, pour faire, pour assouvir à leurs besoins. Par exemple, un enseignant à qui on donne 80 000 francs. Et qu'il y a des enfants qu'il doit lui aussi à son tour scolariser. Mais c'est insignifiant. C'est insignifiant. En tout cas, notre État ne se soucie pas du tout de la structure éducationnelle. Mais il oublie que l'avenir de ce pays est entre les mains de la jeunesse. Des étudiants, des élèves. Alors, cette éducation-là, pour être réussie, on doit s'occuper des enseignants qui sont à la base même de cette éducation-là.
Merci, merci.
En tout cas,
merci.
Selon moi, oui. Que le gouvernement fasse un effort.
Merci.
Qu'ils prennent en charge les enseignants afin que l'éducation soit bien conservée dans notre pays. Mais que l'invité nous dise un peu. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Ou bien, quels moyens on peut utiliser pour interpeller le gouvernement afin qu'il se soucie des enseignants pour les prendre en charge et faciliter l'éducation dans notre pays?
Voilà, merci Kitoko d'avoir appelé de Kinshasa. On reste dans la même ville de Kinshasa pour accueillir Kindoula. Bonjour Kindoula.
Bonjour, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
On vous écoute, Kindoula, quelle est votre question?
Moi, je dis que ce n'est pas une question. Je suis très content avec l'analyse que le ministre a. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que un pays cherche à aller de l'avant ou qui cherche à aller au développement puisse négliger la jeunesse. Partout ailleurs, on met tous les moyens pour l'encadrement de la jeunesse pour construire l'avenir de la jeunesse. Mais ici, chez nous, on va demander aux parents de prendre en charge les enseignants. Donc, les parents, un nombre sont des chômeurs. Et s'il y en a qui travaillent avec des salaires fondés à la fonction publique, lesquelles entreprises publiques qui fonctionnaient encore il y a 10 ans aujourd'hui, c'est devenu les gâteaux qu'on a subi à Air Frère, à l'Air. À l'aise dans les bases du clientélisme, du tribalisme, et ça ne marche pas. Prenez le cas de bon temps, moi je suis dans une grande entreprise de la place, mais j'attends mon salaire de mois de juin. On ne peut plus vous donner des avantages comme les frais scolaires, les frais scolaires, on ne vous donne pas, mais chaque matin vous trouvez chez moi 6-7 personnes qui attendent dans la cour pour que je puisse les tenir en aide. Alors que moi ici, je suis par mesure d'envoyer mes enfants à l'école. Alors, si un cadre, un directeur d'une entreprise qui n'est pas à mesure, alors dites-moi, tout ce qui se débrouille chaque matin, ils ne savent même pas où ils vont, comment ils vont faire rentrer leurs enfants à l'école. Alors, un gouvernement qui travaille de cette façon-là, et qui parle de la croissance chaque jour, la croissance en 5 chiffres, à 15 chiffres, n'est que sur le terrain, les gens sont en train de souffrir. Moi, je crois que la seule chose que nous devons faire, comme l'a dit l'Université, c'est de nous prendre en charge. La seule façon de se prendre en charge, c'est d'aider les jeunes gens à comprendre qu'ils doivent faire une révolution et ils doivent se révolter contre la mauvaise gestion de ce pays. En fait, ce n'est pas possible que les institutions politiques se passent, font les dépassements de budget pour leur luxe. Et que la grande majorité de la population profite dans la misère.
Voilà, merci. Merci.
Et nous puissions continuer à supporter ces gens, des comportements et des années durant, alors qu'ailleurs les choses ont changé grâce à la révolution comme enfant.
Voilà, Kindoula, merci. L'invité vous a bien suivi. Il va réagir par rapport à vos préoccupations qui rejoignent d'ailleurs ceux qui sont intervenus avant vous, parce qu'il y a d'autres auditeurs. Il faut qu'on leur accorde également la parole. Il y a là, par exemple, José qui nous appelle depuis Lubumbashi, qui aimerait également parler. Bonjour José, vous êtes à Lubumbashi.
Bonjour monsieur.
On vous écoute.
Oui, bonjour, je suis à Lubumbashi. Je salue à Radio Kapi et je salue d'abord la vérité. Je devrais un peu demander la situation qui se passe en RDC. Vous dites que là, le gouvernement peut s'occuper de l'enseignement en RDC. Au cas où l'enfant n'étudie pas en RDC, il faut mettre l'enfant à l'heure pour aller étudier. Comment est-ce qu'il peut avoir les soucis de suivre en loupe les enseignements en RDC et financer les enseignements en RDC? Une autre question que demande, pourquoi on ne s'occupe pas souvent de la secteur de l'enseignement en RDC? On s'occupe de d'autres secteurs, mais le secteur de l'enseignement est négligé.
Merci José d'avoir appelé de Lubumbashi. On retourne ici à Kinshasa et on va accorder la parole à Pascal Chamba. Bonjour Pascal.
Bonjour messieurs les journalistes.
Alors quelle est votre question par rapport à le sujet abordé? Que faire pour mettre fin à la prise en charge des enseignants par les parents d'élèves?
Oui, monsieur le journaliste, je veux plus poser les trois questions majeures. J'aimerais un peu savoir si réellement le système éducatif est pris normalement en charge. C'est une sorte de déportation pour que l'élève soit en charge. Et la deuxième question, si le système est pris en charge, pourquoi le système de remise à niveau de nos diplômes à l'étranger? La troisième question est la dernière. Quand le système éducatif d'un pays est bafoué, peut-on parler de l'émergence ou bien c'est de l'utopie? Merci, monsieur le journaliste.
Merci à vous aussi, Pascal Chamba. Merci d'avoir appelé de Kinshasa. Et John Gimbi, vous êtes chargé de communication de l'ONG Dynamique pour l'action humanitaire et défense des droits de l'homme. Avec vous, on parle de que faire pour mettre fin à la prise en charge des enseignants par les parents de l'élève en RDC. Donc, vous avez suivi tour à tour toutes ces interventions de nos auditeurs. Alors, comment vous réagissez? Parce que le constat est presque apparemment le même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire pour redorer l'enseignement et surtout... en tout cas, tous ceux qui ont parlé, on se pose des questions par rapport à pourquoi on en est arrivé là et qui faire pour redorer et l'enseignement, le système éducatif en RDC, surtout comment faire pour enfin ne plus parler de ce phénomène de prise en charge des enseignants par les parents.
Je remercie tous les auditeurs de Radio Capi, tant en République démocratique du Congo qu'à travers le monde, qui suivent l'émission et qui suivent cette radio de la paix. Un auditeur a parlé de la volonté politique ou de la gratuité politique. Non, la gratuité est constitutionnelle, mais dans la pratique, elle est cosmétique. J'espère que je me fais comprendre.
Cosmétique, c'est-à-dire
c'est du vernissage. C'est une gratuité de Ndombolo. C'est une gratuité de façade. Pour qu'elle devienne effective, pour que le secteur éducatif devienne un secteur d'émergence, il ne faut pas attendre que le Premier ministre Matata en fasse une priorité. Il faut que nous, population, nous en fassions une priorité. En janvier de cette année, lorsque la population avait estimé qu'une loi allait à l'encontre du bien de la nation, elle s'est levée comme un seul homme pour dire non. Et ceux qui avaient à voter cette loi ont reculé et ils ont entendu et mis en pratique ce que la population voulait. C'est à la population de déterminer les institutions, les types d'éducation que nous voulons pour nos enfants. En septembre 2016, j'espère que nous reviendrons encore ici sur Radio Capi, nous espérons que les choses auront changé. Dans 5 jours, c'est la rentrée. Je crois que les choses vont rester en l'état. Toute chose restant égale par ailleurs. Mais je crois que si, dès maintenant, les parents, la jeunesse, tous les partenaires, nous nous déterminons à ce que, dans le prochain gouvernement, dans le prochain budget, dans les institutions à venir, que l'éducation figure en bonne et en place de choix, cela se fera. Yes, we can. C'est cela ma conviction. Si tous les parents de la RDC, nous sommes 70 millions d'habitants, si nous avons des parents, tous nous sommes parents, nous nous déterminons à ce que le budget qu'on alloue à l'enseignement puisse être majoré à autant de pourcentage et que nous y mettons les moyens et la pression d'ici une année. Cela se fera. Ne laissons pas les gens nous construire des immeubles intelligents avec des budgets faramineux. Ne laissons pas les gens acheter des avions qui sont pris en otage, qu'ils achètent à des prix excessifs. Ne laissons pas les dirigeants s'octroyer des droits indus alors que nous avons des enseignants qui ont des salaires de misère. Il faut contraindre le pouvoir public à aller dans le sens de ce que la Constitution dit. Ce n'est pas le monsieur qui parle au micro, c'est la Constitution. L'éducation, c'est un secteur qui doit être une priorité.
Mais monsieur Jeune, on vous dira tout de même qu'il y a des efforts qui sont fournis par rapport à...
C'est cela. Mais... Si vous lisez l'accord d'Addis Abeba, il s'ouvre en ces termes. Des progrès ont été réalisés. En tous les secteurs, relisez l'accord d'Addis Abeba de 2013. Des accords ont certes été réalisés. Dans tous les secteurs, Il y a 2 ans, ma tante a prometté de construire 1000 écoles à travers la République. Elle en a construit, je crois, moins de 500. Et puis, les slogans ne passent plus. On n'a pas besoin de 1000 écoles. On a besoin des écoles à travers la République. On n'a pas besoin de 1000 écoles. Il faut en construire autant qu'il en faut. Et il faut donner des salaires qu'il faut à l'enseignant. Nous avons de bons journalistes à Radio Okapi. C'est parce qu'ils ont été très bien formés, n'est-ce pas, par des enseignants il y a quelques années. Mettez le budget qu'il faut à l'enseignement. Mettez les moyens qu'il faut à l'enseignement. Comme on en met dans d'autres secteurs, de la défense, de la sécurité, des infrastructures. Mettez les moyens qu'il faut à l'éducation et nous aurons, n'est-ce pas, un système éducatif à la hauteur de ces grands pays. Alors nous aurons un pays émergent. Je vais terminer, je crois, j'étais par là.
Oui.
Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat sont aux États-Unis, n'est-ce pas, pour évaluer ce qu'on a appelé les objectifs du millénaire. Parce que d'ici octobre, on parlera des objectifs pour le développement durable. On a parlé de 5 chantiers. L'éducation reste toujours une priorité. On ne construit pas une nation si on n'a pas un service éducatif de poigne, si on n'a pas un service éducatif de qualité. Évitons les cosmétiques, évitons les vernissages. Allons dans le fond des questions de l'éducation. Poussons les pouvoirs publics à allouer un budget conséquent, parce que nous pouvons le faire. Nous pouvons donner un salaire digne à nos enseignants. Si les parents cotisent, font de la motivation, donnent un peu d'argent aux enseignants, ça veut dire que le pouvoir public sont davantage capables de payer les enseignants. Question qu'ils soient contraints à le faire. C'est constitutionnel. Yes, we can.
Oui, on le peut. Voilà, on va finir avec, je l'avais dit en début de l'émission, par rapport à ces sujets, il y a beaucoup de réactions sur notre page Facebook. Malheureusement, on ne pourra pas les lire toutes, mais je vais encore rapidement lire 2 réactions. Là, c'est Jean Piquis Moncio qui nous écrit ceci. As-tu déjà vu les chômeurs payer ceux qui travaillent? C'est le cas en RDC. Parfois, on vous oblige de payer 2 mois. Du coup, il faut que cela change. Ailleurs, l'enseignement est pris en charge par l'État. Il est également Kani Lubango qui écrit ceci. Tant que les hommes politiques n'auront pas la volonté de mettre fin à ce système, vous parlerez jusqu'à vous fatiguer, mais rien ne changera. Il ne s'agit pas de manque de moyens, mais d'une volonté politique des gouvernants.
Tout à fait d'accord. Volonté politique du gouvernant, mais puisqu'elle est déficitaire dans la pratique, il faut contraindre le pouvoir public. C'est constitutionnel. Lorsque les gens que vous désignez pour vous représenter font faillite à leur devoir, vous avez le devoir de les sanctionner. Et les moyens de les sanctionner, vous les avez tous les jours. Vous avez les élections qui arrivent, sanctionnez ces députés qui n'ont pas voté des lois propices au secteur de l'éducation. Mettez-y de vrais qui vont se préoccuper de la situation, non pas de leur salaire. J'apprends qu'il y en a qui touchent 13 000 dollars américains, bon sang, et vous donnez 100 dollars, moins de 100 dollars à un enseignant. Où est-ce qu'on a vu ça? Mais il y a moyen. Il faut que nous nous prenions en charge, n'est-ce pas, en contraignant le pouvoir par le moyen de droit et constitutionnel, à ce que l'éducation devienne la priorité de priorité, comme cela l'a été depuis les années 60 avec le père Ekwa de l'Istre Mémoire, qui avait assumé des fonctions à l'époque. Nous avions étudié à l'époque, nous ne connaissions pas ce qu'on appelle Minerval. Nous trouvions des cahiers et des ouvrages sur nos bancs pupitres. Il faut qu'on revienne à ce que l'enseignement soit effectivement gratuit au niveau public primaire, pour garantir à ce que chaque Congolais ait une formation de base qui lui garantisse un avenir meilleur. Yes, we can.
Il y a 2 réactions, on va les prendre rapidement. Il y a Chris Mutombo qui nous appelle de Kinshasa et Arthur qui quitte. En tout cas, on va leur accorder rapidement la parole. On y va d'abord avec Chris Mutombo. Bonjour Chris.
Bonjour Marcel, bonjour à notre invité.
Allez-y rapidement Chris, quelle est votre question?
Oui, ma question est celle-ci. Depuis que le gouvernement a voté la loi selon la gratuité de la scolarisation des enfants, aucune réalisation sur cette proposition-là. Alors que dans un pays normal, responsable, démocratique, il faudrait, n'est-ce pas, promouvoir le secteur éducatif, donc les enseignants. C'est l'État qui doit nécessairement payer ces enseignants. Que les parents qui souffrent et qui ont des salaires là minimes et qui les reçoivent dans un tas qui est inopportun. Donc c'est un peu difficile. Il faudrait que l'État ne pas respecte ses engagements, la manière de payer les enseignants dans un temps opportun, comment ils fassent aussi un travail opportun pour que notre pays soit ou bien aille, n'est-ce pas, de futurs gestionnaires qui sont vraiment très importants et très utiles.
Merci Chris de m'appeler de Kinshasa. Qui quitte, Arthur est en ligne. Bonjour Arthur.
Bonjour mon frère Marcel, notre ami Jean. Bon, c'est monsieur Arthur. J'ai une préoccupation. Je ne sais pas, le ministre, en supprimant la gratuité au niveau de Lubumbashi et Kinshasa, ils ont peut-être peur de la réaction des enseignants de Kinshasa et de Lubumbashi. Mais ils oublient que certaines réactions nationales viennent peut-être de l'intérieur. Et puis, en outre, quel est ce pays, depuis Sénégal, n'a pas de barème salarial? Nulle part au monde, sauf dans notre pays, la République démocratique du Congo. Merci, je peux m'arrêter là-bas pour ne pas prendre beaucoup de temps.
Merci, Arthur, c'est gentil de votre part d'être aussi précis. Voilà, on va prendre en tout cas cette fois-ci un dernier auditeur en ligne, c'est Fernand qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Fernand. Et
bonjour, messieurs les journalistes.
On vous écoute, oui, okay, Fernand, oui.
Je salue les auditeurs de la radio Capier, je salue l'invité. Moi, je suis ici à Lubumbashi, en tout cas, je suis vraiment très inquiet quand on me dit que à Lubumbashi, l'enseignement primaire est gratuit. On me dit, j'ai suivi la dame qui vient d'intervenir à partir de Lubumbashi. Dans quelle école ici à Lubumbashi, là où l'enseignement est gratuit? C'est très faux. Et quand vous voyez les écoles publiques ici à Lubumbashi, il n'y a pas d'élèves, les écoles sont vides et les enseignants n'y vont que pour marquer leur présence et ils sont dans le secteur privé. Alors je vais soutenir la position de l'invité, ce qu'il dit. Tous ces gens, ils sont au pouvoir il y a très longtemps. Chaque début de l'année scolaire, il y a toujours des problèmes. Ils nous promettent, ils disent des choses qui ne se réalisent pas. Qu'on fasse que le peuple et la population puissent se prendre en charge, qu'on change la classe politique, puisqu'ils n'ont pas de volonté. Ils sont là, ils travaillent pour eux-mêmes. Je vous dis, je suis ici à Lubumbashi, il n'y a pas d'école là où l'enseignement est gratuit. Pour il y avait aussi tous ceux qui nous suivent à travers toute la République. Ici à Lubumbashi, il n'y a pas d'école là où l'enseignement est gratuit. C'est très faux.
Voilà.
Je suis enseignant, je travaille dans le secteur privé. En tout cas, je soutiens la position de l'invité. En tout cas, ce qu'il dit, c'est tout le monde qui met en tout cas pour révolutionner les choses. Sinon, ça n'ira pas. Et c'est un grand danger pour les jours à venir, pour l'avenir de ce grand pays, le Congo.
Merci Fernand depuis Lubumbashi. Voilà, et John Gimby, on va finir avec vous. C'est-à-dire, on retient que si c'est vrai, il y a au niveau du gouvernement des efforts, hein, si on prend quand même des efforts qui sont faits par-ci, par-là, mais vous estimez que le service de l'enseignement est prioritaire, il faut vraiment davantage, vraiment beaucoup d'efforts par rapport à ces secteurs. Vous avez parlé par exemple du budget qu'il faut d'arriver à la hausse, et puis surtout d'une vraie volonté politique par rapport au secteur de l'enseignement.
Tout en remerciant Radio Capi, tout en remerciant nos auditeurs, nous allons demander, c'est plutôt un appel, nous sommes au mois de septembre, dans 5 jours c'est la rentrée scolaire, que tous les enseignants se mobilisent dès à présent. Il y a des syndicats dans les écoles, il y a des enseignants, il y a des syndicats au niveau de sous-division et toutes les structures. Il faut se mobiliser dès à présent en se disant, dans une année, ça va changer. C'est-à-dire, pendant une année, mobilisons-nous, concertons-nous, mettons en place de stratégies pour contraindre le pouvoir public à prioriser les secteurs de l'enseignement. Et n'attendons pas que ceux qui sont au pouvoir puissent penser à nous. Ils penseront à leurs émoluments, ils penseront à leurs frais d'émission, ils penseront à leurs avantages, ils iront même en dépassement. Mais nous, déterminons-nous à ce que dans une année, c'est-à-dire en septembre 2016, ça aura changé, parce que nous aurions canalisé une série de stratégies pour contraindre le pouvoir public, c'est constitutionnel, à changer un ordre, un certain nombre de choses, pour que l'éducation devienne effectivement une priorité de priorité, et devienne un secteur d'émergence et de croissance, contrairement à ce que l'autre pense. Suivez mon regard.
Yasuken, j'ai beaucoup aimé, vous n'avez pas arrêté de répéter ça, donc c'est possible, nous le pouvons. Merci beaucoup à John Gimby, chargé des communications de l'objet dynamique pour l'action humanitaire et défense des droits de l'homme. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ces sujets. Que faire pour mettre fin à la prise en charge des enseignants par les parents d'élèves en RDC? Merci, à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.